Avec vous ce soir, Pierre Abélard, qui est moins connu comme théologien et comme philosophe que par certains événements de sa vie privée. Pierre Abélard, c'est le héros d'un poème de Pierre Villon, La ballade des dames du temps jadis, qui a été popularisé par Brassens, sa chanson qui est directement puisée dans le poème de Pierre Villon. Je rappelle le bref extrait qui peut nous concerner ici. Où est la très sage Héloïse, pour qui fut châtrée et puis moine, Pierre Esbayard à Saint-Denis? Pierre Esbayard, bon, c'était l'orthographe de l'époque, qui était assez flottante, mais c'est bien Pierre Abélard, donc le théologien et philosophe dont nous allons parler maintenant. Et je voudrais dire en commençant que parce que j'essaie de ce que je vais essayer de montrer à travers cet exposé, c'est que Abélard illustre quand même une réalité historique qui est mal connue, c'est souvent méconnue, concernant la pensée médiévale, puisque c'est un auteur du XIIe siècle, hein. Donc on est dans le Moyen-Âge, effectivement, et on a souvent une vision un petit peu simplifiée du Moyen-Âge, comme une pensée, la pensée du Moyen-Âge, comme une pensée qui serait monolithique, immobile, sous l'autorité de l'Église, qui est évidemment très, très puissante à l'époque. Ce que je voudrais essayer de montrer, c'est qu'à travers le cas Abélard, on peut découvrir une réalité beaucoup plus complexe que dans cette époque, il y a une pensée médiévale vivante, bien sûr dans un cadre donné, un cadre historique donné, mais où il y a des débats, des discussions, des contradictions, des condamnations. Voilà. Donc c'est ce que je voudrais essayer de montrer en rappelant d'abord peut-être ce contexte historique du XIIe siècle qu'on appelle parfois la deuxième renaissance médiévale. D'ailleurs, c'est ce que les historiens, c'est le nom que les historiens ont donné à ce XIIe siècle, après la première renaissance médiévale qui serait celle de Charlemagne au IXe siècle, donc 3 siècles avant. C'est vrai que ce XIIe siècle est un siècle plutôt positif, je dirais, un siècle de progrès social, économique. Il y a à cette époque-là un petit réchauffement climatique, évidemment sans rapport avec le nôtre actuel, mais un adoucissement du climat qui permet à l'agriculture d'être plus prospère, développer les richesses en quelque sorte. Il y a l'essor des villes aussi, un essor des villes qui est important, une bourgeoisie qui se développe. Voilà pourquoi on parle de deuxième renaissance médiévale, en attendant la grande renaissance, bien sûr, du XVe et XVIe siècle. Alors, au XIIe siècle, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la vie? Comment, dans le royaume de France, on est dans le royaume de France, comment constituer la vie sociale et culturelle? Eh bien, elle est évidemment très nettement dominée par l'Église catholique, qui depuis Charlemagne est devenue religion d'État. C'est elle qui assure l'enseignement élémentaire dans les paroisses et les monastères, et aussi autour des cathédrales dans les villes. Et cette par-delà l'enseignement élémentaire dont je viens de parler, il y a tout un enseignement supérieur qui est développé dans les villes, autour des cathédrales en particulier. Et c'est un enseignement qui est important parce qu'on va retrouver Abélard très vite là, parce que cet enseignement est directement hérité de l'éducation gréco-romaine, avec ce qu'on appelle les sept arts libéraux, le trivium, c'est-à-dire les trois voies qui sont plus spécialement littéraires, qui comportent la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Le mot dialectique sera celui qui reviendra bientôt. Et puis le quadrivium, les quatre voies qui sont plutôt à orientation scientifique, avec l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie, la musique étant reliée étroitement aux mathématiques et donc comme discipline scientifique en quelque sorte. Voilà, donc le cadre culturel. Alors cette église est très importante, c'est elle qui se charge à la fois de l'enseignement élémentaire, de l'enseignement supérieur, on peut dire, hein. Mais cette église, malgré sa puissance, est confrontée à deux problèmes principaux dont on retrouvera les échos à propos d'Abélard. D'abord, une certaine rivalité de son pouvoir, justement, avec les pouvoirs temporels de la monarchie et de la noblesse, des noblesses, parce que l'Église n'est pas seulement à cette époque-là un pouvoir spirituel, c'est aussi un pouvoir temporel. Elle lève certains impôts, elle organise ces grands événements temporels qui sont les croisades au siècle précédent, au XIe siècle, la première croisade qui a été proclamée par le pape Urbain II à Clermont, d'ailleurs, exactement, hein, c'est bien là. Et puis la deuxième croisade qui sera dirigée par Bernard de Clairvaux, dont on reparlera aussi plus abondamment, en 1146, au XIIe siècle. Alors par-delà ces problèmes de rapport temporel, de pouvoir, il y a aussi, les historiens le disent, une certaine crise morale du clergé qui est parfois corrompue. Alors ça donnera lieu à toute une littérature de critique, d'ironie d'ailleurs, sur les divers trafics qui se livrent dans le monde du clergé, trafic de sacrements, de trafic de reliques, de postes d'évêchés. Évidemment, très éloigné de l'idéal évangélique. Et alors, dans les monastères, car c'est ça qui nous intéressera davantage, puisqu'on a vu tout à l'heure que Pierre Ébéllard s'est fait moine à Saint-Denis, donc il va rencontrer la vie monastique, effectivement. Et là aussi, il y a une règle, la règle de Saint-Benoît, la règle bénédictine qui a été édictée précédemment, au VIe siècle, mais qui a été très souvent. Qui est assez souvent, je dirais, ou négligé. Cette règle de Saint-Benoît, c'est une règle qui prescrit la pauvreté, la chasteté. Et en fait, dans un certain nombre de monastères, comme le découvrira Abélard, il y a une certaine licence, il y a aussi des trafics rémunérateurs, il y a des concubins, il y a des moines mariés, même avec des enfants. Et alors, il y a eu plusieurs réformes importantes qui ont été mises en œuvre pour faire face à certaine dégradation de la vie monastique. Et il y a eu la réforme qu'on appelle clunisienne au Xe siècle, par la création d'un nouvel ordre monastique de Cluny, justement. Et puis la réforme, encore un peu plus tard, pour redresser encore la barre, la réforme cistercienne. Avec Bernard de Clairvaux, justement, qui est le contemporain d'Abélard. Donc, dont nous reparlerons parce tous les deux ont eu des rapports extrêmement importants. Voilà, c'est le cadre historique que je voulais rappeler brièvement. Alors, quelques mots sur la vie d'Abélard. Sa vie, alors je donne les dates d'abord. Il est né en 1079, donc à la fin du XIe siècle, disons, et il est mort en 1142, au milieu du XIIe siècle. Alors, si on veut trouver un mot pour résumer la vie d'Abélard, on peut dire qu'il a une vie plutôt tumultueuse, et pas seulement en rapport avec Héloïse, pas seulement, on va voir. Et alors, il a d'ailleurs écrit une sorte d'autobiographie extrêmement intéressante et émouvante en même temps. Une autobiographie qui n'a pas les vertus d'un ouvrage historique au sens propre, mais enfin, qui a quand même été intéressant, qui s'appelle d'ailleurs, qui apporte un titre déjà significatif, Historia Calamitatum, c'est-à-dire Histoire de mes malheurs. Elle raconte tout ça. Il raconte une partie de sa vie, c'est 10 ans avant sa mort qu'il raconte ça, et puis un bilan de sa vie. Et effectivement, on va voir brièvement que sa vie est faite de malheurs successifs, mais aussi de haut et de bas, disons, de haut et de bas, de très haut et de très bas. Alors, il est l'aîné d'une famille de petite noblesse d'un village de Bretagne, près de Nantes. Et première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il est l'aîné de la fratrie et il décide de renoncer à ses droits d'aînesse et au métier des armes qui est lié aux droits d'aînesse. Il décide de se consacrer très, très jeune aux lettres et aux études supérieures. Et alors, parmi les disciplines de l'étude supérieure qui l'intéressent, c'est la dialectique. La dialectique, en fait, c'est-à-dire la logique, l'art philosophique du raisonnement rigoureux, de la discussion argumentée, inspirée de Socrate, de Platon, d'Aristote, qu'il étudie effectivement dans plusieurs écoles de ville, comme étudiant itinérant. Et beaucoup, il y avait beaucoup d'itinérance dans la vie étudiante à ce moment-là déjà. Il va à Vannes, en Bretagne, donc, et puis à Chartres, à Angers, puis à Paris, à l'école cathédrale de la Cité à Paris, la grande école. Alors c'est un étudiant extrêmement brillant, pas seulement parce qu'il le dit lui-même, mais parce qu'il y a tout un consensus de témoins, et même plus que brillant, jugé parfois arrogant et contestataire par ses maîtres. Si bien que, par exemple, il se fait exclure de l'école de la Cité, l'école cathédrale de la Cité, parce qu'il aime la discussion, il aime la polémique. Alors il a abandonné le métier des armes, comme je disais tout à l'heure, mais en fait il aime la bagarre orale, la discussion, la polémique, et y compris avec ses professeurs qu'il conteste. Et il apparaît parfois devant l'auditoire des autres étudiants comme étant capable de mettre en difficulté le professeur. Et donc, il se fait exclure pour la première fois déjà, et ce n'est pas la dernière, de l'enseignement de l'école cathédrale de la Cité. Alors, ça n'empêche pas d'ailleurs de persévérer dans cette visée de devenir professeur de dialectique. Il devient professeur de dialectique. Il commence à enseigner effectivement la dialectique, l'art de la discussion, l'art de la discussion argumentée. À Melun, à Corbeil, et puis il revient à Paris, où il fonde sa propre école sur la montagne Sainte-Geneviève, dans le futur quartier latin, une école qui est autonome par rapport à l'autorité épiscopale, ce qui est assez original, et ce qui marque aussi son état d'esprit d'autonomie. Voilà. Son enseignement, ça, les témoins de l'époque le disent, son enseignement reçoit un accueil extrêmement favorable du monde étudiant. Et il a un rayonnement considérable, considérable. Il y a des milliers d'étudiants qui sont pas seulement d'origine du Royaume de France, mais même de pays étrangers, d'Allemagne, d'Angleterre. Il a un énorme succès d'Européens, on peut dire. Voilà, c'est la première étape de son itinéraire d'intellectuel, de philosophe. Mais cela ne suffit pas, il veut aussi devenir théologien. Il veut devenir théologien, ce qui est tout à fait différent, c'est une autre discipline tout à fait différente. Et là, il se lance dans des études de théologie, donc dans le nord-est de Paris, dans la ville de Laon. Il se lance dans cette étude, et puis là, il se produit la même chose qu'à la cathédrale de Paris. Le professeur qu'il a à ce moment-là le déçoit beaucoup, il discute avec lui, il le met en question, y compris sur des questions donc de théologie, quoi, ce qui est quand même nouveau pour lui. Et puis, bon, il se fait exclure là aussi par le professeur. Et il devient quand même, quelques temps après, enseignant de cette discipline. Qu'il revient enseigner. Alors, il faut bien dire qu'il y a par-delà c'est les nominations, il y a tout un flou où l'Église, où les autorités politiques, les réseaux jouent déjà un grand rôle. Il se trouve qu'il obtient la possibilité de revenir à Paris comme professeur de théologie. Et sa renommée continue d'ailleurs à s'affirmer. Alors c'est dans ce contexte, donc vers 1513, que un chanoine de Paris, appelé le chanoine Fulbert, l'installe chez lui pour qu'il devienne le précepteur de sa jeune nièce Héloïse, qui était une étudiante déjà savante, qui avait à cette époque-là à peu près une vingtaine d'années. On devine à peu près que cette époque-là, cette étudiante, qui était très rare d'ailleurs chez une femme à l'époque, connaissait le latin, le grec et même de l'hébreu. C'était une étudiante très brillante et son oncle décide de le confier à ce personnage extrêmement brillant et populaire dans le monde universitaire qui est Abélard. Bon, donc il s'installe à domicile, là, s'en suivent des leçons, des cours, un lien intellectuel très fort entre Abélard et Héloïse. Et puis, ce lien intellectuel devient une liaison amoureuse intense qui aboutit à une grossesse et à la naissance d'un garçon auquel les parents donnent le nom bizarre d'Astrolabe, d'ailleurs, Astrolabe. Et d'ailleurs, la naissance a lieu dès que cette grossesse apparaît. Abélard expédie Héloïse dans sa famille, à lui, en Bretagne, et c'est là que va naître le petit Astrolabe, d'ailleurs. Alors, on devine que cet événement va créer des remous, notamment de la part de l'oncle Fulbert, qui n'avait pas du tout prévu cette éventualité. Et donc, cet événement déchaîne la colère de l'oncle Fulbert, qui oblige les amants à se marier, alors que ni l'un ni l'autre n'ont envie de se marier, pour de multiples raisons. Lui, il est déjà une sorte de clerc, donc il n'est pas prêtre, mais enfin, les clercs ne doivent pas se marier, ou il vaut mieux ne pas se marier. Et Héloïse, d'ailleurs, ne souhaite pas que Abélard se marie, qui ça pourrait compromettre sa carrière, et elle tient énormément à la carrière d'Abélard, et elle non plus n'est pas du tout intéressée. Elle est l'amante d'Abélard, éperdue d'Abélard d'ailleurs, mais elle n'a pas du tout envie de se marier. Bon, finalement, les deux amants cèdent à la demande de l'oncle, à condition que ce mariage reste secret. Il y a un mariage, donc, mais secret. Mais le dénommé Fulbert n'a pas dit son dernier mot. Il est très jaloux d'Abélard. Il révèle au public, il révèle au vaste public qui s'intéresse à Abélard, la vérité. Et alors, pour éviter qu'Héloïse ait des ennuis avec son oncle, Abélard lui demande de se réfugier, demande à Héloïse de se réfugier dans un couvent et de devenir nonne, de devenir moniale dans le couvent d'Argenteuil. Et donc, il retire en quelque sorte sa nièce à l'oncle, ce qui aggrave encore la furie de l'oncle. Et c'est à la suite de cette furie qu'arrive l'événement chanté par Brassens, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire Fulbert soudoie quelques individus qui vont châtrer effectivement à Abélard et l'obliger à se retirer. Et il se retire effectivement, il devient moine lui-même, donc il a envoyé Héloïse devenir monial à Argenteuil, lui-même devient moine à ce moment-là à Saint-Denis. À Saint-Denis, c'est ça. Voilà l'épisode. Pendant ce temps, le petit astrolabe se grandit évidemment en Bretagne, très loin de ses parents. Il verra pas beaucoup ses parents. Alors, le problème, c'est que Abélard, tout individu libéral qu'il soit, dans sa façon de voir la vie et l'amour, tombe dans ce monastère de Saint-Denis où les moines pratiquent une règle bénédictine extrêmement relâchée, et il entreprend de les rééduquer en quelque sorte, parce que lui, il pense qu'à partir du moment où un moine a adhéré à une règle, il s'est engagé. Il s'est engagé, il doit respecter cette règle. Et donc il se heurte il se heurte à la majorité des moines de Saint-Denis, qui l'expulse finalement, ou qui le menace, et il s'enfuit, il quitte son monastère, il se réfugie à la campagne, je dirais, très loin de Paris, dans une sorte, sortant abandonné de tout le monde, en quelque sorte. Il se réfugie en Champagne et il vit en ermite pendant quelque temps, et puis il construit une petite cabane, un oratoire qui s'appelle le Paraclet. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup d'étudiants, ces étudiants, ont besoin de lui, veulent le suivre. Et donc, dans cet endroit-là, vers Troyes, la campagne de Troyes, en Champagne, on afflue un certain nombre d'étudiants de Paris qui veulent continuer à recevoir l'enseignement d'Abélard. Et donc, il y a une sorte. On édifie des constructions pour accueillir ces étudiants, etc. Et il y a une sorte d'université aux champs qui se crée, où Abélard retrouve un public, et son public d'étudiants enthousiastes qu'il avait à Paris. À ce moment-là, il publie par ailleurs un ouvrage de théologie consacré à la Trinité. Nous reparlerons de ce sujet là, tout à l'heure. Mais cet ouvrage de théologie de la Trinité, où Abélard, justement, c'est ça qui est le problème, c'est qu'il prétend appliquer au problème théologique la méthode philosophique de l'argumentation, du raisonnement, de la compréhension. Et cela aboutit à des considérations sur la Trinité, dont on parlera tout à l'heure en détail, mais qui finalement se heurte aux objections d'un certain nombre de théologiens. Et au cours d'un synode ou d'un concile, le terme est approximatif, c'est plutôt un synode. Cet ouvrage consacré à la Trinité est l'objet d'une condamnation. Lui-même est jugé sur ce document comme hérétique. Il est condamné donc par ce concile. Ça se passe à Soissons. C'est à Soissons, première condamnation que lui-même décrit comme une deuxième castration. C'est lui-même qui utilise ce terme pour désigner cette blessure intellectuelle, morale cette fois. Et son ouvrage, d'ailleurs, est brûlé en auto-da-fé. Alors, bon, c'est dramatique pour lui, mais bon, pour les hasards de la vie font que. Un monastère breton, donc de sa région d'origine, l'élit comme abbé, c'est à Saint-Gildas de Rhuys, en Bretagne, le fait appel à lui. Il avait un certain prestige déjà au niveau national, si on peut dire, et donc il rejoint ce monastère. Abandonnant le fameux oracle qu'il avait fondé, ce qu'on appelle le Paraclet, qui va trouver une utilisation nouvelle, parce que Héloïse a eu des problèmes de son côté, dans ce couvent d'Argenteuil, où elle était devenue d'ailleurs prieure. Sa personnalité extrêmement brillante s'était là aussi manifestée, mais pour des raisons politiques complexes, je dirais. Toutes les moniales sont chassées du couvent d'Argenteuil, et donc Héloïse se trouve sans rien. Donc Abélard lui fait don de son ancienne université du Paraclet en Champagne, pour qu'elle installe un nouveau monastère, une nouvelle abbaye, et ils contribuent tous les deux à créer un ordre uniquement féminin. L'ordre du Paraclet, destiné aux femmes qui veulent cultiver la connaissance, le savoir et le chant sacré, consacré uniquement à ça, consacré uniquement au travail intellectuel et au chant sacré. Et Cette monastère sera un ordre créé, un ordre uniquement féminin créé dans cette optique-là, et sera d'ailleurs reconnu ultérieurement dans l'optique de l'ordre de Cluny. Donc c'est quelque chose d'officiel qui va être mis en place ici par Héloïse et Abélard. Alors, Abélard est toujours abbé en principe de son couvent de Bretagne, là, mais là aussi il se heurte aux mœurs dissolues de ce monastère, là aussi, comme à Saint-Denis, et il a des rapports extrêmement difficiles avec ses moines qui veulent carrément le menacer, l'empoisonner, dit-il dans son autobiographie, et il revient à Paris. Il va revenir et rédiger un nouvel ouvrage de théologie qu'il veut, je dirais, prendre acte des condamnations précédentes, mais qui ajoute d'autres éléments et qui vont donner lieu à un nouveau synode, un nouveau concile à Sens cette fois, à l'instigation de son adversaire principal, qui est Bernard de Clairvaux, qui obtient. Au terme d'un procès, une deuxième condamnation pour hérésie qui frappe Abélard en 1140. Alors, Abélard est extrêmement affecté par cette condamnation, qu'il trouve tout à fait injuste. Il veut d'ailleurs aller à Rome défendre auprès du pape lui-même, faire appel en quelque sorte de cette condamnation. Mais Bernard Clairvaux, qui a des relations plus proches de la papauté, arrive avant, si vous voulez, et puis donc ça échoue. Mais Abélard commence à être âgé, fatigué, déçu, amer, etc. Et il est accueilli finalement sur la route de Rome, à Cluny, à l'abbaye de Cluny, où là il est accueilli par l'abbé de Cluny, qui est un personnage très, très intéressant de l'époque, qui laisse quelques traces d'ailleurs à Clermont, c'est un Auvergnat, c'est Pierre le Vénérable. Pierre le Vénérable, qui a une rue près de la gare, et qui est l'abbé de Cluny, et qui connaît bien d'ailleurs Héloïse aussi, et qui l'accueille, et qui essaie de le consoler de tous ses malheurs, de toutes les calamités. Abélard meurt 2 ans après. Cet épisode, et Héloïse mourra plus de 20 ans après, et elle demandera qu'elle soit enterrée auprès d'Abélard, et d'abord au Paraclet, cette fameuse abbaye du Paraclet qu'ils avaient créée simultanément, et puis au XIXe siècle, leur tombeau a été transféré dans un magnifique construction qui se trouve au Père-Lachaise actuellement. Ils sont enterrés tous les deux au Père-Lachaise. On peut aller voir le magnifique monument qui les réunit pour toujours. Voilà donc la vie tumultueuse d'Abélard, avec des hauts et des bas, la gloire, l'effondrement, la condamnation comme hérésie, ses livres brûlés par l'Église, alors qu'il se considère comme un bon chrétien, comme un bon théologien. Et alors, à partir de là, quelques développements maintenant sur quand même l'œuvre d'Abélard. J'ai parlé de la vie tumultueuse, l'œuvre d'Abélard. Alors j'ai surtout parlé de l'œuvre intellectuelle, bien entendu, comme théologien et comme philosophe. Mais Abélard n'est pas simplement théologien et philosophe, c'était aussi un musicien, un compositeur, un véritable compositeur et musicien, alors qui a écrit dans le domaine profane. Alors on évoque souvent des chansons d'amour qu'il avait écrites dans sa jeunesse. En hommage à Héloïse, d'ailleurs, étaient des chansons que les étudiants connaissaient, d'ailleurs, qui chantaient dans le monde étudiant parisien à l'époque. C'était assez connu. Alors ça, on n'a pas conservé ces documents, ces œuvres, musique, ces chansons d'amour pour Héloïse. Par contre, mais toujours avec Héloïse, Il a composé, pour Héloïse, il a composé d'autres œuvres. Alors, la deuxième partie de la vie, de leur rapport, ils sont toujours mariés, bien sûr, ils sont époux, mais complètement séparés dans leur vie, puisqu'elle est abbesse d'un côté, et lui, il est abbé dans un autre monastère. Mais au Paraclet, justement, Héloïse demande à son époux de composer des œuvres religieuses, liturgiques. Parce qu'elle trouve que ce qu'on lui offre, les œuvres traditionnelles sont trop, se manquent d'expressivité, sont ennuyeuses. Et donc, Abélard va composer de nombreux chants religieux, des hymnes, des lamentations qu'on connaît, qu'on a actuellement, qu'on peut entendre jouer d'ailleurs. Hein. On est dans le mode grégorien, bien sûr. C'est le grégorien qui est à ce moment-là, le mode musical. Mais enfin, c'est des œuvres importantes qu'il a constituées. Bon, je ferme la parenthèse concernant l'Abélard, musicien et musicien. Et j'en arrive à l'essentiel, quand même, théologien et philosophe. Alors, il se situe dans la foi chrétienne, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il est vrai que la foi chrétienne à cette époque-là est partagée entre différents courants. Et alors, on peut, en simplifiant un petit peu, dire qu'il y a un courant qui est incarné justement par Bernard de Clairvaux, qui a été son principal accusateur au cours des deux conciles qui l'ont condamné comme hérétique. Hein. Bernard de Clairvaux fait partie de ce courant étroitement, je dirais, monastique, ascétique, fidéiste, c'est-à-dire fidéiste au sens où la foi, selon lui, et la règle monastique suffisent pour vivre une vie chrétienne complète. Et donc, c'est tout à fait inutile et nuisible de vouloir y mêler les apports de la philosophie et de la dialectique qui émanent d'une raison humaine qui est pervertie par le péché originel. Donc la foi seule sauve, en quelque sorte, on peut dire. Alors l'autre courant, c'est un courant qui précède Abélard, hein, qui est incarné notamment par un théologien du siècle précédent, qui est Anselme de Canterbury, théologien du XIe siècle, pour lequel il y a bien sûr la foi est l'essentiel, mais pour reprendre l'expression qu'il utilise, fides quaerens intellectum, c'est-à-dire la foi cherche l'intelligence. Il s'agit donc de comprendre plus sa foi pour mieux croire, comprendre plus pour mieux croire. Voilà, on peut dire comme ça. Et c'est cette orientation qui, bien entendu, qu'on convient à Abélard, avec ce goût dont on a déjà parlé, ce goût pour la réflexion, l'argumentation, les discussions. Et je voudrais lire un texte qui fait partie de son ouvrage Historia Calamitatum. Il explique son itinéraire. Il dit. Exactement. Je compose donc ce traité sur la Trinité, c'est l'époque où il compose ce traité, à l'intention de nos étudiants qui réclament des explications philosophiques à portée de la raison humaine. Il me presse vivement, ces étudiants, pour que ces explications soient plus intelligibles que seulement récitées. Ils disent que l'intelligence ne peut suivre le cours d'une simple énonciation de paroles redondantes, que rien ne peut être cru s'il n'est d'abord compris, et qu'il est ridicule que quelqu'un prêche aux autres ce que ni lui, ni ceux qui l'écoutent ne sont en mesure de comprendre par intelligence. Bon, on voit la filiation par rapport à la foi qui cherche l'intelligence, fides quaerens intellectum. Nous sommes dans cette optique-là. Et donc, j'en suis où là exactement? Oui. Donc, il va vouloir justement nourrir la théologie, appliquer à la théologie. Les méthodes inspirées de la philosophie de Platon, d'Aristote, et de la dialectique en particulier. Alors, il l'applique d'abord dans un domaine qui est, on peut dire, profane, à travers une question philosophique classique depuis Platon, qu'on appelle la question des universaux. Bon, je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais enfin, en gros, il s'agit de savoir si les idées qui ne sont pas simplement des observations ponctuelles de choses singulières, mais qui sont, par exemple, par-delà Pierre ou Paul, la notion d'homme, ils sont humains, ils sont des hommes. Bon, est-ce que la notion d'homme a une réalité indépendamment de la particularité singulière que sont chaque individu? Est-ce qu'il y a une essence d'homme à laquelle participe bien sûr l'individu, mais qui a une réalité particulière en tant qu'essence générale? Alors, c'est-à-dire que là, c'est ce qu'on appelle la thèse réaliste, qui s'inspire directement de Platon, l'idée d'un monde des essences, d'un monde intelligible des essences, auquel participe chaque individu dans sa singularité. Donc, c'est la thèse inspirée qui a été enseignée d'ailleurs à l'époque de Abélard par un de ses maîtres, Guillaume de Champeaux. Avec laquelle il a eu une discussion très vive, voilà, qu'on n'a pas parlé tout à l'heure. Hein. Alors, par rapport à cette thèse, il y a une autre thèse, à l'époque d'Abélard aussi, qui conteste cette aspiration platonicienne et qui dit que non, ce qui existe là, c'est la réalité individuelle singulière, c'est la seule réalité véritable. Donc les idées sont en fait des mots, mais qui ne désignent aucune réalité à part, aucune réalité intelligible séparée. Et donc il y a une discussion à l'époque d'Abélard entre le courant réaliste d'inspiration platonicienne et le courant nominaliste, on appelle le nominalisme, qui dit que les idées ne sont que des mots, ou des sons. Mais qui ne correspondent à aucune réalité intelligible en elle-même. Alors il va élaborer une troisième solution avec une argumentation qui emprunte d'ailleurs en partie à Aristote, qui était déjà assez critique à l'égard de la notion de monde intelligible de Platon, hein, et s'inspire de l'épicurisme, de la conception de la connaissance dans l'épicurisme, par exemple, donc s'inspire de la tradition grecque aussi. Hein. Et il dit, non, l'homme, l'idée d'homme, c'est en fait une représentation mentale, une construction de notre intelligence. Quant à la constater des analogies entre les individus humains qui appartiennent à l'être humain. Et donc, quand je dis l'idée d'homme, ce n'est ni une réalité existant en soi, ni non plus un simple son. C'est une construction intellectuelle, un concept, ce que la philosophie ultérieure développera. Notamment à travers la pensée de Kant, en particulier le conceptualisme, c'est-à-dire l'idée que l'intelligence construit des idées pour pouvoir penser la diversité singulière. Voilà, Abélard est célèbre d'abord par cette innovation par rapport aux deux grands courants qui, sur ce problème très, très un petit peu technique, je dirais, quand même, diviser les penseurs philosophes ou philosophes de l'époque. Alors, bon, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est lorsque sa méthode d'argumentation, sa méthode de discernement, sa méthode d'interrogation critique veut s'appliquer au champ religieux. C'est à ce moment-là où les choses vont devenir plus périlleuses pour lui. Et alors, par exemple, ça commence dans un livre qui porte un titre tout à fait significatif, Sic et non, c'est-à-dire c'est ainsi et c'est autrement en même temps. Ou alors, dans ce livre, il rassemble des citations de la Bible, des pères de l'Église, des autorités ecclésiastiques, et il fait remarquer que ces textes, quand on les met côte à côte, peuvent se contredire. Il y a des incohérences, il y a des contradictions étonnantes et choquantes sur la question, par exemple, des attributs de Dieu, sur Adam, sur la personne du Christ. Bon, il y a un certain nombre de phrases, de textes qui se contredisent et qui peuvent poser problème. Et Abélard trouve que c'est très bien. C'est très bien de s'interroger, c'est très bien de douter, non pas pour disqualifier ces textes, mais pour obliger à faire un travail d'analyse, d'interprétation, d'explication, en tenant compte des contextes différents, de la pluralité de sens d'un même mot, qui peut avoir plusieurs sens dans des contextes différents. Et finalement, cette réflexion critique et ce discernement rationnel permet au fond d'approfondir la connaissance du message essentiel, du message de ces documents. Donc il ne s'agit pas du tout de les contredire, mais d'en approfondir en quelque sorte la compréhension. Alors, de la même façon, dans la vie tout à l'heure, sur la question de la Trinité, c'est à la fois un dogme et un mystère propre au christianisme, qui définit à la fois Dieu comme un et trois, et en trois personnes. Là aussi, il va faire un travail d'analyse, de discernement, et il va dire Dieu est un pour lui-même, en soi. Dieu est un. La diversité apparaît pour l'homme lui-même, dans les aspects que Dieu peut avoir pour l'homme. Donc on pourra à ce moment-là distinguer, par exemple, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la bonté de Dieu, mais ce ne sont pas pour autant trois personnes distinctes. Hein, et il essaie de majorer le facteur, l'aspect monothéiste du christianisme par l'aspect polythéiste, du moins apparemment, avec l'idée de trois personnes que les conciles ont posé comme un dogme essentiel. Alors, il y a d'autres questions sur lesquelles aussi il va faire ce travail de réflexion critique, par exemple sur le péché originel. La grande question du péché originel, qui pour tous les chrétiens est évidemment un thème essentiel, lui, il dit il ne faut pas concevoir ce péché originel comme prédestinant, comme aboutissant à une prédestination de la part de Dieu entre ceux qui seront sauvés et ceux qui seront damnés. Et il faut attribuer à Dieu non pas un pouvoir de prédestination, mais un pouvoir de prévision simplement. Et on respecte à la fois là la puissance divine qui est capable de voir ce que l'homme ne peut pas voir de son avenir, mais en même temps, ça ne modifie pas la liberté humaine. Il n'y a pas de prédestination, il y a simplement que Dieu sait à l'avance comment librement chaque individu a pu décider de telle ou telle conduite. C'est une distinction intéressante, je crois, me semble-t-il. Et donc chacun peut espérer faire son salut sans se croire prédestiné par avance. Il y a une volonté de la part d'Abélard de préserver justement le libre arbitre de l'homme. Et de la même façon, dit-il, ce n'est pas la faute originelle vraiment qui a été transmise à ses descendants, c'est plutôt la punition, le fait que l'être humain est un être imparfait, mais ça n'empêche pas de pouvoir échapper à la damnation, pouvoir espérer son salut. Et donc, ce qui se dessine à travers ces exemples-là, c'est l'idée d'un humanisme qui veut donner, reconnaître à l'homme une initiative humaine, une initiative personnelle importante, et qui cet humanisme d'ailleurs va se manifester aussi de la part d'Abélard par un de ses livres qui est très intéressant à l'époque, qui s'appelle Dialogue entre un philosophe, un juif et un chrétien. Alors c'est un ouvrage qui est inachevé, mais il y a quand même une partie intéressante qui existe, qu'on peut lire effectivement. cette idée d'un dialogue entre des humains qui ont des convictions différentes, mais qui peuvent justement par une réflexion éclairée, par une tolérance, une écoute, se parler et s'enrichir mutuellement. Dans le domaine de l'éthique, plus précisément, encore dans plusieurs de ses ouvrages, il aborde la question de la responsabilité et de la punition. Et alors, il fait une distinction très importante entre l'acte considéré en lui-même, dans sa matérialité, et l'intention de l'acte. C'est-à-dire que le même acte, par exemple un homicide, peut être vu comme sous deux angles tout à fait différents, selon que c'est un homicide volontaire ou involontaire. Donc le même acte matériel a des sens complètement différents. Et dans plusieurs de ses œuvres, il insiste sur cela, et il va très loin, il dit même, il va s'appuyer sur un texte de l'Évangile, la fameuse phrase du Christ en croix, qui dit à propos de ces tortionnaires, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils ne sont pas vraiment coupables de ce qu'ils font. La culpabilité, ça implique la volonté délibérée de violer la loi de Dieu et la loi naturelle. Il faut qu'il y ait cette condition d'une volonté du mal pour lui-même, pour qu'il y ait véritablement culpabilité. Et je dirais de ce point de vue-là que cette distinction entre la matérialité de l'acte et l'intention, c'est une idée fondamentale du droit moderne, qui prend toujours en compte pas seulement la matérialité de l'acte, mais effectivement l'intention, le contexte, etc. Alors, dernière chose que je voudrais dire pour présenter la pensée d'Abélard, il dit. Ni l'acte extérieur, ni la volonté de cet acte, ni la concupiscence ou le plaisir qu'elle excite ne constituent le péché lui-même. Nous ne sommes pas tenus d'étouffer ce plaisir. Il y a une sorte d'apologie d'une spontanéité naturelle qu'affirme Abélard par ses phrases. Le péché pour lui ne sont pas dans le désir ou dans la tentation, mais dans le fait de céder à cette tentation. Et on voit très bien comment la position d'Abélard c'est très éloignée de celle de Bernard de Clairvaux, qui est un idéal ascétique, effectivement, qui porte un idéal ascétique, alors que chez Abélard, on voit affirmer une confiance en l'homme, en sa raison, en son discernement, en son libre arbitre, y compris en son goût du bonheur. Alors je voudrais terminer pour rassembler ces différents éléments, pour éviter de faire croire aussi qu'Abélard serait une sorte de libre penseur rationaliste. Le fait qu'il ait été condamné deux fois comme hérétique par les plus hautes autorités de l'Église signifie pas du tout qu'il est un libre penseur rationaliste ou agnostique. Il est ce qu'on peut appeler un intellectuel croyant, qui incarne un certain type de christianisme qui n'était pas effectivement le christianisme de la majorité des théologiens et du clergé de son temps, et qui est peut-être plus proche d'un christianisme moderne. Pour les théologiens et la majorité du clergé de son temps, disons que ce courant que j'ai appelé tout à l'heure fidéiste, qu'on retrouvera d'ailleurs chez Pascal, ou Kierkegaard par certains côtés, l'idée essentielle, c'est que le christianisme est une révolution en rupture totale avec l'histoire passée dans laquelle l'humanité est vouée à la déchéance par la faute originelle. Ça, c'est le thème qu'on voit très nettement chez Pascal et que Bernard de Clairvaux défend systématiquement. Donc l'idée du christianisme est une révolution complète, parce que sans cette révolution et sans donc le sacrifice et la mort du Christ crucifié, l'humanité est vouée à la déchéance. Alors que je dirais que Abélard, situé dans un courant qu'on peut appeler peut-être humaniste chrétien, pour lequel le christianisme est le fruit d'une évolution, où il y a une continuité entre, bien sûr, avec les prophètes de l'Ancien Testament, qui l'ont préparé, mais aussi avec la philosophie antique de Socrate, de Platon, des stoïciens. C'est-à-dire que malgré le péché originel, l'homme conserve une nature qui a été créée à l'image de Dieu, selon les textes canoniques. Il peut donc participer à la sagesse et à la raison divine par sa propre raison, qui peut converger avec sa foi. L'idée d'une convergence de la foi et de la raison, et non pas d'une opposition frontale de la foi et de la raison. Et cela se traduit notamment par l'image du Christ qui est différente. Je dirais que pour Bernard de Clairvaux, comme pour Pascal plus tard, l'image essentielle du Christ, c'est le Christ en croix, le Christ crucifié. Alors que pour Abélard, il le dit clairement, le Christ, c'est un maître, un docteur qui apporte un message d'amour et de justice qui est au moins aussi important que sa mort sur sa croix. Alors, je terminais, simplement je voudrais donner un petit prolongement de ce qu'a été la pensée d'Abélard. Le prolongement de la pensée d'Abélard, ça a été ce qu'on appelle dans l'histoire de la philosophie et de la théologie, la scolastique. La scolastique, bon, qui est assez décriée depuis Descartes en particulier, mais en fait, qui a représenté cette volonté, notamment à travers l'œuvre de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, qui est donc 2 siècles après, qui lui a bénéficié d'ailleurs de la traduction qui est enfin parvenue à cette époque-là à Thomas d'Aquin, la traduction des œuvres complètes d'Aristote que Abélard ne connaissait pas. Il connaissait la logique d'Aristote, quelques œuvres par-ci par-là, mais il ne connaissait pas la physique d'Aristote, l'éthique d'Aristote, la métaphysique d'Aristote. Et c'est ça qui est l'œuvre de Thomas d'Aquin, c'est de faire une synthèse de la pensée d'Aristote et de la pensée chrétienne. Et cela, c'est vraiment le prolongement de l'intention d'Abélard, marquer cette continuité entre la théologie chrétienne et la philosophie, gréco-latine, notamment l'œuvre d'Aristote qui inspire l'architecture principale de la somme théologique de Thomas d'Aquin en même temps que le christianisme. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le thomisme, ce qu'on appelle cette philosophie thomiste de Thomas d'Aquin, est devenue, comme synthèse de grands courants, la philosophie grecque et de la théologie chrétienne, un des courants importants de la pensée chrétienne, la pensée catholique en particulier. Alors, je ne sais pas exactement si aujourd'hui le thomisme est encore la pensée dominante des théologiens du XXIe siècle, des théologiens catholiques du XXIe, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, le thomisme, comme doctrine qui a influé énormément dans l'histoire de la théologie chrétienne, est directement l'héritier d'Abélard. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention et je peux répondre à des questions ou des objections si vous en avez. Oui.